ensemble, ici, Radio Livre.
Radio Livre, la radio des initiatives.
Eh bien, nous voilà de retour en direct du marché des producteurs des piles. Alors, après moult périplessies, moult déplacements, nous voilà enfin pour notre studio radio, le premier de l'année. Alors, aujourd'hui, on va discuter des ONG, donc des organisations non gouvernementales, c'est-à-dire des associations qui travaillent à l'international. On va discuter de ce qui se fait, de qui elles sont et comment elles existent ici dans les baronnies. Donc, c'est vrai que nous, on a l'habitude de parler des initiatives locales, et là, on s'est dit, on va parler des initiatives locales qui agissent aussi à l'extérieur. Donc, je vais vous demander d'abord comment sont nés les projets que vous portez, donc Toilette du Monde et le groupe URD.
On commence par Toilette du Monde.
Ouais.
Donc, nous, c'est une histoire qui a commencé vers les années fin des années 70, où on est venu habiter ici dans le coin avec un petit groupe parce que c'était mon lieu d'origine. C'est un petit groupe de personnes qui se sentaient concernées à la fois par la santé de la planète, certains, et d'autres plus la santé humaine, mais un peu les liens. Et puis pendant une vingtaine d'années, diverses recherches ont été faites un petit peu autour de tout ça, puisqu'un petit centre de recherche en quelque sorte s'était constitué. Et un groupe s'est plus orienté vers tout ce qui est assainissement de l'eau, problèmes liés à l'eau. Et à partir de là, vers les années 2000, on a créé donc l'association Toilettes du Monde pour mettre un petit peu toutes ces technologies et toutes ces qui avaient été mises au point à disposition de tout un chacun et essentiellement des populations un petit peu défavorisées, en particulier dans ce domaine-là, puisque certaines technologies s'étaient développées et étaient plus au service peut-être des Européens, mais était un peu cher pour certains publics, quoi. Or, le problème de l'assainissement et de l'eau, il est mondial et qu'on sait qu'il y a 2 milliards 4 personnes dans le monde qui n'ont pas d'assainissement. Donc, ça paraissait vraiment un besoin. Donc, on a à la fois ce secteur. On a démarré plutôt autour de problèmes de précarité sanitaire en France. Et puis, on a avec le projet et on a beaucoup développé la partie internationale. Et Barbia vous en parlera aussi.
Super. Merci. Donc d'abord, une initiative qui est partie de France pour aller se développer. Est-ce que c'est un peu le même cheminement qui s'est fait à la création du groupe URD ?
Alors, pas tout à fait, parce qu'en fait, donc la fondatrice du groupe URD, c'est le docteur Claire Pirotte, médecin qui a vécu à Nyons de longues années. Et j'ai une petite pensée pour elle, parce qu'elle est décédée en début d'année. Voilà. Et donc, c'est elle qui a fondé le groupe URD. L'idée a germé dans sa tête. Elle était médecin pour Médecins sans frontières en Amérique centrale. Et elle est rentrée en France avec l'idée de créer une structure qui permettrait de faire se rencontrer les acteurs humanitaires de l'urgence, donc ceux qui interviennent dans les catastrophes naturelles, les conflits, etc., et les acteurs du développement, ceux qui interviennent sur le long terme, sur des problématiques plus structurelles. En disant, mais en fait, ça n'a pas de sens de continuer à être sur des méthodologies différentes et de ne pas se connaître. Et donc, elle a créé un groupe de discussion entre les ONG de l'urgence et les ONG du développement en 93. Donc, c'est vraiment ça, la création du groupe URD. Et ensuite, on s'est ancré sur ce territoire parce qu'on a fondé ce qui est aujourd'hui le siège de l'association à Plaisien, dans une ferme qu'on a réhabilitée. Avec donc François Grunewald qui était le compagnon qui s'est mis à travailler avec Claire Pirotte dès les années 90 sur ce projet. Voilà.
Et vous parlez de la différence entre des ONG d'urgence et des ONG de développement. Est-ce que vous, à Toilette du Monde, vous catégorisez d'un côté ou de l'autre ?
Probablement plutôt du côté développement. En sachant que certains problèmes, en tout cas pour la précarité France, on est des fois avec tous les problèmes de migration, et je pense que vous allez en reparler, fait que les problèmes sont quand même importants. Des fois, on est à la limite de l'urgence, mais voilà. Mais pour nous, on est quand même plus. En tout cas, tout ce qu'on fait à l'international, c'est un Bardia. On peut dire que c'est quand même.
Oui, tout à fait. C'est vrai que on va dire, presque à 99% de nos activités sont orientées vers le développement. Que ça soit, je pense, même ici en France qu'à l'international. On a très peu de projets axés sur l'urgence pour l'instant. Mais je pense qu'on n'a pas exclu l'option de faire des projets dans l'urgence, pour l'instant, on n'a pas eu une demande express. C'est ce qu'on verra tout à l'heure, comment on fonctionne en termes de développement de projet et en termes aussi d'axes d'intervention.
Mais si je peux me permettre, en fait, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait ne plus parler d'ONG d'urgence et d'ONG de développement parce que ça a de moins en moins de sens. Et c'est ça le sujet, le cœur de notre problématique. C'est qu'on se rend compte que les situations dites d'urgence ailleurs, loin, elles nous concernent de plus en plus. La question des migrations, c'est bien parce qu'il y a des problèmes dans ces pays qu'il y a des migrations chez nous. La question du changement climatique, il y a quelques années, on avait l'impression que c'était pour le Sahel, pour les zones désertiques ou pour les deltas qui allaient être submergées par la montée des eaux. Aujourd'hui, on se rend compte que ça concerne tout le monde. Donc, les questions de changement climatique, ça doit être des questions de développement aujourd'hui. Donc, de l'urgence, on en vient au développement et les problématiques se croisent. Donc, si aujourd'hui, il fallait inventer un autre nom de notre association, peut-être qu'on s'appellerait plus Groupe Urgence Réhabilitation Développement. Mais en 93, c'était des mondes très séparés. On avait l'impression que la question de l'urgence ne concernait pas le monde du développement. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que si, les crises, ça concerne tout le monde. Et ça nous concerne, nous aussi. C'est pas que là-bas, c'est ici aussi, en fait.
Et ça, c'est un point qui a vraiment en commun entre les deux, parce que vous disiez qu'à la base, ça a été créé ici, et vous parliez aussi des conditions climatiques du sud de la Drôme, dire que voilà, on est dans une région sèche, en fait, et le manque d'eau, il est aussi criant aussi, ici.
Absolument. Tu l'as dit, c'est pas la peine que je le redise. Mais on a plusieurs fois, là, depuis 25 ans qu'on existe, été confrontés avec même des élus à cette problématique-là. Enfin, on sent qu'elle est présente ici et qu'elle le devient de plus en plus.
Comment vous décidez de l'endroit dans lequel vous allez agir ? C'est-à-dire que ici, quand on parle d'associations sociales, ça parle des habitants qu'il y a autour et créer du lien ou venir en aide à des personnes vulnérables. Comment on fait pour savoir dans quel endroit on va agir quand on travaille à l'international ? Comment on décide ?
Oui, nous, c'est vrai qu'on a développé une stratégie d'intervention donc à Toilettes du Monde. On a deux grands axes d'intervention. C'est-à-dire le premier, c'est que on s'est inscrit dans une logique de répondre à des appels d'offres ou à des appels à projets ou à des appels à manifestation d'intérêt. Donc là, le besoin est exprimé en amont par les populations, mais qui sont remontées par ce qu'on appelle les maîtres d'ouvrage. Ce sont les personnes qui initient le projet et qui nous sollicitent parce qu'on a une expertise à faire valoir. Donc ça, sur ce mode d'intervention, on va dire qu'on développe le projet concrètement sur le terrain, sur cette base-là. Le deuxième axe d'intervention, c'est qu'on s'est inscrit depuis quelques mois maintenant dans une démarche proactive. C'est-à-dire qu'on prend l'initiative de monter par nous-mêmes des projets, mais en concertation avec les bénéficiaires directs, c'est-à-dire qu'on va par exemple dans des pays bien précis, quel pays on va, c'est vrai que la question elle est assez pertinente parce que on va dire les besoins sont assez présents dans tous les pays. Maintenant, le choix d'intervenir dans tel ou autre pays, ça tient à plusieurs facteurs. Donc, notamment par la présence et la connaissance du contexte dans lequel on intervient, parce qu'il faut connaître aussi le contexte socio-économique et culturel des pays dans lesquels on intervient, pour derrière aussi développer des techniques d'assainissement écologique qui sont facilement appropriables par les bénéficiaires directs. Et donc, sur cette base-là, qu'on décide d'aller, par exemple, au Sénégal, au Gabon ou au Burundi. Et ensuite, derrière aussi, ça dépend de la source du financement, parce que derrière, on peut développer, on peut avoir une bonne intention de projet. Et derrière, si on n'a pas le financement pour concrétiser, ça ne va pas aller plus loin. Donc derrière aussi, on est à l'affût des bailleurs de fonds qui ont des lignes budgétaires donc pluriannuelles qui décident de financer tel ou tel projet dans telle ou telle localité.
Et alors nous, en fait, notre mandat, c'est de travailler sur la complexité des situations et des interventions. Donc, on développe des actions d'évaluation ou de recherche pour aider les acteurs à travailler en qualité et à être le plus efficace possible. Donc les lieux d'intervention ou les zones où on est le plus présent, c'est souvent les zones particulièrement complexes. Donc actuellement, par exemple, on est beaucoup sur la zone sahélienne avec le mélange entre justement l'impact du changement climatique, Boko Haram, des enjeux politiques. On a été pendant longtemps sur Haïti avec tous les enjeux de reconstruction suite au séisme de 2010. Dans la zone autour de la Syrie, dans les pays qui accueillent les réfugiés, on est assez présent. Donc on est plutôt guidé, je dirais, par l'actualité et la complexité des crises. Parce que c'est en général là qu'il y a des acteurs qui sont en réflexion ou sur lequel, pour lesquels justement il faut pouvoir aider et stimuler une réflexion pour la qualité de leurs actions. Donc voilà, actuellement par exemple on a un bureau à N'Djamena au Tchad pour toute la zone du lac Tchad avec les différents pays autour du lac Tchad. On a ouvert aussi au Mali, sur la, voilà. Et puis, après, on peut avoir des évaluations, par exemple, dans la Corne de l'Afrique ou autour de la zone de Syrie, beaucoup.
Et à Toilettes du Monde, je crois aussi que vous avez un bureau en France et un bureau au Gabon, c'est ça ?
Voilà, on a un bureau de représentation au Gabon et je crois qu'on ne va pas rentrer sur ce sujet. On est probablement en train de le fermer ou de le suspendre parce que pour plein de raisons sur ce pays-là en ce moment, quoi. D'accord.
Et tout à l'heure, vous parliez d'appel à projet, d'appel à manifestation d'intérêt, de bailleurs de fonds. Ça, c'est un terme qui appartient seulement au monde des ONG. Enfin, c'est des termes que vous côtoyez très, très souvent, vous, à votre quotidien, dans votre quotidien.
Oui, ça fait partie des terminologies qu'on a l'habitude de rencontrer et qu'on vit au quotidien. Parce que c'est...
Et du coup, juste pour faire une petite précision, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est quoi la différence entre un appel à projet et un appel à manifestation d'intérêt ? C'est peut-être un peu complexe.
Mais... c'est un peu complexe. On va peut-être rentrer un petit peu de façon simple. Ouais. Un appel à manifestation d'intérêt, c'est quand un bailleur de fonds
sollicite... Un financeur.
Un financeur, ouais. Exactement. Sollicite des bureaux d'études ou des associations ou des ONG pour avoir des meilleures propositions pour réaliser un projet. Et là, c'est juste qu'on manifeste l'intention de dire, bon, moi, j'ai les compétences requises par rapport au profil que vous demandez et je vous soumets mon dossier administratif et un petit peu technique aussi pour dire que dès que vous serez prêt, vous pouvez m'envoyer une note beaucoup plus détaillée pour que je vous fasse ma proposition technique. L'appel à projet, l'appel à projet, c'est on est un peu plus avancé dans la phase, on va dire, vers la réalisation. C'est-à-dire que le financeur dit, ben, moi j'ai une ligne budgétaire qui est disponible maintenant. Je vous sollicite pour que vous me fassiez une proposition technique plus détaillée pour réaliser mon projet. Donc là, c'est une mise en concurrence directe et au bout du processus, il y a un ou deux ONG qui sont sélectionnés pour réaliser le projet. Donc je ne sais pas si je suis un peu précis, mais voilà.
Souvent, l'AMI, c'est beaucoup plus léger pour éviter qu'on passe des heures à préparer des dossiers. Donc voilà, si on a des références déjà bien précises, etc., ça permet de faire quelque chose d'assez rapide. Et puis le bailleur fait une première sélection et on va faire le projet plus poussé. Souvent, c'est comme ça quand il y a une AMI d'abord, quoi.
Non, juste, effectivement, le monde des ONG, il y en a certaines qui vivent avec des dons du public, des donateurs individuels. Et en général, c'est panaché entre justement des dons du public, donc qui laissent complètement la main à l'organisation pour intervenir là où il lui semble que sont les priorités. Mais donc c'est elle qui a vraiment le choix final revient à l'ONG. Et après, dans les bailleurs de fonds, il y a différentes modalités qui sont plus ou moins libres du coup pour l'organisation. La moins libre étant où finalement l'ONG, elle peut se retrouver à mettre en œuvre une action qui a été décidée par un décideur politique sur des fonds public, donc c'est très, très bien aussi. Mais voilà, il y a du coup, en fait, un espèce de, d'éventail des sources de financement qui sont plus ou moins contraignantes pour l'organisation et qui laissent plus ou moins de liberté de manœuvre pour l'organisation. Certaines organisations se battent pour avoir des fonds propres, pour pouvoir faire ce que les décideurs ne décideront jamais de faire. Une ONG comme on en parle aujourd'hui dans la presse, SOS Méditerranée, qui justement là, dans son intervention pour les migrants en Méditerranée, se retrouve en porte-à-faux avec les différentes législations et ça devient un enjeu politique. Si elle, elle n'a pas de financement du donateur individuel, elle ne peut pas fonctionner. Les États ne vont pas prendre le risque politique de financer aujourd'hui une organisation comme SOS Méditerranée. Or, il y a besoin. En tant que citoyen, je dis qu'il y a besoin, mais ça, c'est mon point de vue personnel. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toujours besoin des dons privés directement aux ONG, ce qui leur permet de faire ce qu'aucun bailleur de fonds, aucun décideur ne voudra financer.
Ouais. Du coup, juste pour préciser, SOS Méditerranée, c'est pour les auditeurs, c'est une ONG qui intervient, qui déploie des navires dans la Méditerranée pour aller chercher les vaisseaux en détresse, comme on les appelle bien joliment. Je vous propose d'écouter un témoignage qu'on a recueilli il y a quelques semaines d'une autre ONG qui est aussi dans les Baronnies mais qui est à échelle toute petite et qui justement fonctionne que sur des fonds propres et sur un système de parrainage collectif. Donc voilà, je vais laisser la parole à Evelyne qui n'est pas là mais qui aurait bien aimé.
Alors, Un cartable à la main a été créé en 2008, tout simplement parce que j'allais beaucoup à Madagascar auparavant. Et puis un jour, j'ai décidé de scolariser deux petites filles que j'ai rencontrées dans la rue. Voilà, donc on a fait ça avec mon mari. Puis l'année d'après, on a scolarisé deux autres enfants. Et puis on s'est dit finalement, pourquoi pas créer une association pour essayer de tendre la main à tous ces enfants des rues qui sont finalement sans avenir. En fait, on a monté une chaîne de parrainage collectif. Donc collectif, ça veut pas dire un parrain pour un enfant, mais ça veut dire tout le monde met ce qu'il peut dans le même panier. Et avec cette somme récoltée, on peut scolariser un plus grand nombre d'enfants justement que un pour un. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes 54 parrains marraines pour 95 enfants. Parce que ça veut dire aussi qu'on a des parrains marraines qui s'engagent aujourd'hui bien généreusement et heureusement qu'on les a. Mais parfois, la vie de notre côté fait aussi qu'on ne peut plus continuer à parrainer un enfant. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de frustration, de culpabilité de la part du parrain ou de la marraine en disant « Oui, mais finalement, je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout avec cet enfant. » Puisque, je le répète, c'est collectif, donc il n'y a pas d'impact là-dessus. Voilà, ça évite aussi de faire des différences entre enfants. Ça, c'est très clair, puisqu'on a des parrains et marraines qui n'ont pas les mêmes moyens financiers. Voilà, il y a des gens qui ne verront jamais les enfants de par des problèmes tout simplement de santé ou trop âgés. D'autres qui ont des moyens financiers qui leur permettraient d'aller 2-3 fois à Madagascar. Après, si c'est pour couvrir l'enfant de cadeaux, c'est pas le but. Donc, on est toujours resté dans l'objectif de quand on donne quelque chose à l'un, on doit le donner aux 94 autres, puisqu'on est à 95 cette année. Voilà, c'est ou pour tout le monde ou pour personne. On a des parrains marraines qui se rendent sur place donc chaque année depuis déjà 6 ou 7 ans. Que j'ai convié à m'accompagner tout simplement lors des séjours en Batoulampe. Donc voilà, en général on part, on est 5 ou 6, pas plus.
Et ça permet qu'eux se sentent peut-être plus investis dans l'association aussi, le fait d'aller sur place ?
Complètement, moi chaque fois j'ai des retours très positifs parce que c'est vrai que souvent on me dit malgré les comptes rendus qui sont hyper détaillés, chose que les gens apprécient énormément, on n'arrive pas à se rendre compte. Mais une fois qu'on est allé là-bas, effectivement on comprend vraiment à quoi on sert là-bas.
Alors merci pour ce témoignage en différé, Evelyne. Donc on voit que dans l'exemple d'un cartable à la main, c'est un réseau d'entraide, de partenaires proches qui fonctionne beaucoup sur des fonds propres aussi, même essentiellement sur des fonds propres. Et donc là, la question s'est jamais posée de répondre à un appel à projet, d'avoir affaire à des bailleurs de fonds, de définir des axes d'intervention. C'est vraiment des initiatives personnelles. Alors que Toilettes du Monde et le groupe URD sont dans des dynamiques un peu plus institutionnelles, on peut dire. On parlait tout à l'heure du mix entre les fonds propres et les bailleurs de fonds publics ou privés. Comment vous, dans chacune de vos associations, comment vous agissez avec ça ? Est-ce que vous avez défini une stratégie de financement ? Est-ce que c'est important pour vous de préserver des fonds propres ? Est-ce que c'est important pour vous de faire attention à comment vous variez vos sources de financement ?
Bon, alors nous, malheureusement, je pense qu'on n'aura presque jamais de fonds propres, hein, parce que, et on n'espère pas, on ne fait pas d'appel aux dons du public, parce que je pense que financer une structure qui travaille sur la qualité de l'aide, hein, et sur l'amélioration des pratiques, c'est trop difficile. Hein, et on estime que c'est plutôt au secteur et aux organisations elles-mêmes de trouver les moyens, effectivement, de rémunérer notre travail, en fait, parce que c'est un travail d'expertise qu'on leur fournit. Donc c'est soit auprès des bailleurs de fonds, soit des organisations elles-mêmes. En revanche, ce qui est très positif pour nous, c'est quand, par exemple, on a des jeunes qui sont en stage ou en volontariat, qui viennent nous aider, ou au contraire, des plus seniors qui ont une grande expertise et qui, par exemple, au sein du conseil d'administration, vont nous aider à travers leur expertise. Donc, on rassemble quand même des énergies et des volontés d'agir autour de nous, mais plus à travers ce temps passé avec nous que des financements directs. Et nous, on assume complètement, effectivement, d'être financés sur des fonds. C'est soit les ONG elles-mêmes qui, des fois, nous payent et nous demandent de travailler, soit des bailleurs de fonds qui financent. Et après, nous, comme on est non lucratif, toutes les marges qu'on peut dégager à droite et à gauche, on les réinvestit pour travailler sur des sujets qui nous sont propres. Quand on n'est pas financé, alors qu'on pense qu'il y a des sujets qui sont vraiment importants, on arrive à dégager des marges qu'on investit en fait pour explorer des nouvelles thématiques qui sont peut-être, comme il y a une dizaine d'années, les contextes urbains, les crises en contexte urbain ne recueillaient aucune attention des bailleurs de fonds, etc. Et nous, on a quand même réussi à commencer à travailler sur ce sujet-là, sur nos fonds propres, parce qu'on savait que ça allait devenir un sujet vraiment important. Et donc, voilà, on a cette capacité d'auto-saisine, mais qu'on trouve autrement que par des fonds du public.
Et vous, à Toilettes du Monde, vous parlez tout à l'heure de la différence entre les appels à projets et les démarches proactives. Vous êtes encore dans ces relations de bailleurs de fonds ou pareil, vous faites...
Oui, effectivement, on est complètement, hein, si je peux me permettre, dans cette démarche avec les bailleurs de fonds. Ouais. C'est vrai qu'il faut peut-être faire la distinction entre les ONG qui bénéficient ou qui fonctionnent avec des fonds publics. Donc avec des subventions publiques, nous, à Toilettes du Monde, on n'a pas cette ligne-là. Donc on fonctionne, oui, ça commence à remonter, mais c'est vrai qu'on a toujours fonctionné sur cette base d'appels à projets, de répondre à des appels d'offres, mais on s'inscrit, on commence aussi à chercher aussi des subventions publiques pour pouvoir... développer des projets dans le contexte qu'on a décrit un peu plus tôt.
Oui, je mets un peu une nuance pour deux raisons. D'abord parce que sur ce système d'appel à projet, c'est très bien, mais il y a toutes les situations politiques et nous, on intervient plutôt dans des pays les plus à risque et les plus... Bon, le Burundi, le Tchad, même le Gabon. Voilà, donc on a essuyé des gros plâtres au Gabon, pour ne pas le citer, on est entre nous, donc bon. Du coup, on a un peu des difficultés. Enfin, on ne pourrait plus pour l'instant, parce que ça nous obligerait à deux comptabilités séparées, qu'on a déjà des comptabilités très complexes avec les francs, les CFA, etc., pour pouvoir continuer à bénéficier de dons. Donc on n'a pas cette indépendance qu'ont certaines ONG, bien qu'on le souhaiterait. Éthiquement, ça ne nous satisfait pas du tout, ce type de fonctionnement. En même temps, avec les moyens du bord, on installe 15 toilettes en Afrique, ça ne veut pas dire grand-chose. Comme on a dit, il y a 2,4 milliards de personnes qui n'ont pas d'assainissement dans le monde. On est un peu obligé, pour faire des réalisations concrètes, d'en passer par ces bailleurs de fonds ou par un peu d'autres systèmes. Par contre, il y a tout le côté un peu transfert de compétences, formation, ingénierie sociale. Par exemple, là, on développe un gros projet en RDC qui n'est pas forcément basé sur des réalisations concrètes, mais sur justement toutes ces démarches préalables pour être sûr que ça correspond bien et aux besoins et au profil culturel des populations et qu'il y ait une certaine transfert d'expertise pour qu'après, ils prennent eux-mêmes en main les réalisations concrètes. Et ça, c'est plutôt dans ce type de démarche qu'on met un petit peu l'éthique de l'association, enfin, si on peut dire.
C'est vrai que la question de l'évaluation de terrain avant l'intervention, elle est cruciale dans le domaine des ONG. Et j'ai vu qu'à Toilette du Monde, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur.
Oui, exactement. Oui. C'est vrai que nous, si vous voulez, ça fait partie des préalables pour nous. C'est-à-dire que même si on répond à un appel à projet, les lignes en général sont déjà bien dictées. Mais nous, la plus-value qu'on a à Toilette du Monde, c'est qu'on ne se contente pas de ce que, entre guillemets, les lignes directrices nous demandent de faire. Donc, on répond en disant, nous, on pense que ce que vous avez proposé, c'est bien. Mais nous, en termes de méthodologie, on compte d'abord, à travers les méthodes participatives, redescendre au niveau de la base, poser la question, est-ce que ce projet qui a été pensé vous convient ? L'exemple que je peux donner, c'est l'exemple du Tchad, en Ndjamena notamment, où initialement, le bailleur de fonds nous avait dit, faites-nous une proposition pour distribuer 2000 dalles pour construire des latrines familiales. Nous, on a dit d'accord, mais dans la proposition, on leur a dit, bah, avant de confirmer qu'on va distribuer 2000 dalles aux familles, nous, on souhaite aller auprès des ménages bénéficiaires pour faire une enquête. Donc, on a fait l'enquête pendant 4 mois, et à l'issue de l'enquête, il s'est avéré que les gens nous ont dit, bah, c'est bien d'avoir une dalle, mais nous, on préfère que le projet construise les toilettes à 90%, et nous, les 10%, on peut supporter parce qu'on a les moyens financiers pour. Et donc, on est revenu. Donc, c'est pour dire qu'on peut aussi inverser les choses, même si déjà, en répondant aux appels d'offres, et des intentions ou des lignes sont données. Mais nous, on a cette capacité ou cette volonté de dire, ben, avant de réaliser, il faut qu'on prenne l'avis des futurs bénéficiaires et pour voir comment est-ce qu'ils pensent ou comment est-ce qu'ils se projettent dans le projet. Et ça, c'est assez pertinent parce que ça dépend de la pérennité du projet. Parce qu'on a vu des projets qui ont été réalisés. Et du coup, à la fin, quand on fait une évaluation, on voit que près de 60% des gens ne se sont pas sentis dans le projet. Et donc, ça met en cause la durabilité et la pérennité du projet. Et nous, Malion l'a dit tout à l'heure, on va dire la partie ingénierie sociale est au cœur de notre métier. Et parce que nous, on la conçoit avant, pendant et après le projet pour que derrière, il y ait une appropriation socio-culturelle des ouvrages construits par les bénéficiaires.
Ça, c'est des paroles qui font écho avec le groupe URD, non ?
Oui, absolument. Et ça me fait réagir en me disant, mais effectivement, le secteur de la solidarité s'est professionnalisé. Mais c'est ambigu cette professionnalisation parce que, en fait, moi je dis souvent à des étudiants, il faut, pour être des bons professionnels, il faut savoir qu'on ne sait pas. Parce qu'à partir du moment où on arrive et où on pense qu'on sait, ce dont il y a besoin, on sait comment il faut faire, et ben on a tout faux. En fait, parce qu'on n'écoute plus, on ne s'adapte plus et on n'est plus en réflexion sur mais qu'est-ce que les communautés peuvent faire par elles-mêmes, où est-ce que moi j'ai une valeur ajoutée et surtout voilà, de savoir qu'on ne sait pas, je pense que c'est la meilleure approche pour tous ces contextes-là.
Et c'est vrai que vous le dites, hein, le secteur s'est professionnalisé et du coup on est quand même très très exigeant avec les ONG en termes de rendre des comptes et la question de l'éthique pourtant elle est très présente. Et comment on fait pour gérer cet entre-deux, à la fois le côté très technocratique et exigeant et à la fois la volonté de bien faire ?
Bah, c'est tout. Moi je pense que c'est un des enjeux aujourd'hui, hein, du secteur de la solidarité, c'est... Oui, on s'est professionnalisé et on ne peut pas faire marche arrière et c'est nécessaire. Il y avait aussi de l'amateurisme qui a amené à des vrais problèmes. Donc ça, c'est inacceptable. Donc il y a besoin de cette professionnalisation. Mais à partir du moment où ça veut dire qu'on se coupe des contextes dans lesquels on intervient, qu'on se coupe des individus et qu'on se coupe finalement de nous-mêmes et de la solidarité première qui nous a fait se mettre en mouvement, eh ben, c'est là qu'il y a à nouveau des vrais problèmes dont on entend parler encore aujourd'hui avec les scandales d'Oxfam, avec les dérives sexuelles, etc. Hein, mais je pense que c'est un enjeu qu'on retrouve dans tous les secteurs, même secteur médico-social en France. C'est à la fois cette exigence alors, de professionnalisme, d'efficacité, de meilleur usage des ressources, qui est un mouvement sur lequel je pense que ce serait vain de se battre, contre lequel ce serait vain de se battre, mais justement garder son humanité et la motivation première et finalement la rencontre avec l'autre, c'est ça qui doit rester au cœur. Et comment est-ce qu'on le préserve ? Ben, c'est déjà d'en parler, c'est dans les formations des jeunes générations de dire que ça reste l'essentiel. Et puis nous, c'est à travers aussi ben voilà, les évaluations préalables, les évaluations ex post, qu'on revient à l'essentiel, qu'on revient finalement, mais quelle a été la rencontre avec les communautés, qu'est-ce qui reste après votre intervention ? C'est ça la valeur des choses, en fait. Et donc, remettre le sens au cœur de l'action, je pense que c'est essentiel.
Je vous propose une petite interlude musicale avant de passer à la troisième partie.
Mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste lo que tanto quise dar. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto para quemar, porque el alma prende fuego.
Eh bien, nous voilà de retour dans notre camion radio. Alors, donc on a discuté des ONG, des différents axes d'intervention, de la technocratie de l'intervention et en même temps l'envie de bien faire. Je vous propose d'écouter maintenant la place que laisse l'association Incartable à la main dans les actions qu'elle mène au niveau local pour équilibrer la façon dont elle voit son projet et aussi comment faire un petit peu plus avec ces actions-là.
Alors les petites actions locales, en fait, elles sont plus qu'importantes parce qu'on se rend compte au fil du temps qu'elles nous rapportent pratiquement autant d'argent que la chaîne de parrainage. Alors on a un partenariat avec les Musiques du Monde Les Lointaines qui nous convient depuis 2 ans à participer à leur festival. On a une petite exposition permanente juillet-août au camping des Éphélides. On participe à la journée des associations donc au mois de septembre. Et puis de par d'autres actions, si on organise par exemple une représentation théâtrale, pas forcément chaque année mais donc on le peut, on organise un concert.
Est-ce que ces petites actions au niveau local ont-elles un rôle particulier dans vos activités ?
On a relogé une famille, on fait des petites constructions. Alors voilà. On a également permis à un petit enfant handicapé qui est paraplégique, et ça fait 2 ans à peu près qu'on se bat pour le scolariser et le sortir tout simplement de chez lui. Il a des parents, il est tout seul, mais les parents n'avaient aucun moyen et ne comprenaient pas comment on pouvait scolariser un enfant dans cet état. Alors que nous, on a pu, de par toutes ces petites actions, on a pu acheter un fauteuil qu'on a emmené là-bas. On peut aussi se permettre d'avoir une aide de vie scolaire qui l'accompagne en permanence, et ce qui fait que ça a pu lui donner l'accessibilité à l'école, comme les autres. Tout ça, c'est en dehors de la chaîne de parrainage. Pour être clair, la chaîne de parrainage, elle regroupe la scolarité, l'aide alimentaire, l'aide médicale et l'aide au logement pour les grands. Et puis, en dehors de tout ça, toutes les actions permettent de faire tout ce que je viens de citer auparavant. Mais sans oublier que chaque année, on doit tendre la main aux enfants, puisque quand même la priorité, c'est la scolarisation des enfants des rues et vraiment d'aider à leur rendre une vie meilleure et surtout de leur rendre leur dignité, parce que c'est, je dirais, insupportable de savoir encore qu'aujourd'hui, on a des enfants affamés, quoi. Voilà, donc un enfant qui a faim et qui est malade, même si on peut lui payer son école, je pense que ça ne marche pas.
Donc on voit avec l'exemple d'Evelyne que pour elle, les actions menées en local, c'est-à-dire participer à des événements, faire des ventes dans des festivals, organiser des concerts ou des choses comme ça, fait vraiment partie de la façon dont elle envisage son action et l'action de son ONG. Qu'elle porte, elle, individuellement. Est-ce que Toilette du Monde et le groupe URD, vous menez des actions au niveau local ? Toilette du Monde, vous avez dit au départ dans la présentation que la base de votre création, c'était face à un constat local. Donc est-ce que plus ou moins un constat local, mais est-ce que cette dimension locale est encore bien présente dans vos activités ?
Oui, je pense que l'approche n'est pas du tout la même que dans l'association qui vient de parler. Ça peut être complémentaire. Enfin, nous, notre préoccupation, c'est l'assainissement, mais a priori pas n'importe quel assainissement. Comme j'ai dit au début, les gens motivés, il y avait certains plus par l'humain. Moi, j'étais médecin, donc je trouve qu'il y a des liens avec la santé, mais il y avait aussi des non-médecins qui se préoccupaient de la santé de la planète en général. Et ça concerne aussi bien les baronies que le fin fond de l'Afrique, parce que l'eau, quelque part, à un certain niveau, c'est le même. Je donne souvent cet exemple des femmes esquimaudes qui ne peuvent plus, au moment de leur grossesse, manger la nourriture locale parce que nous, les Européens et les pays occidentaux, on a envoyé un peu trop de mercure dans l'eau et que ça va jusqu'aux poissons qu'elles mangent. Et donc, on est obligé. Voilà, c'est anecdotique, mais je trouve que ça symbolise bien qu'on ne peut pas s'intéresser à ces problèmes d'assainissement et d'assainissement durable sans réfléchir à qu'est-ce qu'on fait et aller mettre des toilettes sèches en Afrique ou au Cambodge, où on était cette année, ou etc., sans réfléchir à ce qui se passe en France. Donc je dirais que nous, nos liens avec le local, c'est plus à partir de cette réflexion et de ce que c'est que l'assainissement durable et ce que ça veut dire ici. Donc il y a des actions plus concrètes, comme par exemple d'intervenir dans les écoles, effectivement, et on a un certain nombre de modules dans le cadre des TAPS ou d'autres types d'interventions sur comment gérer de façon durable pour la planète l'eau. Aussi une sensibilisation sur les inégalités devant l'eau. Et d'ailleurs, on intervient dans le cadre de réseaux en France au niveau de coalition eau, du droit à l'eau, puisque l'ONU a déclaré l'eau un droit universel, mais que la France est loin derrière dans les pays qui se sont donné les moyens que ce soit un droit accessible à tout le monde. On est un pays où l'accès à l'eau... pour les plus pauvres, ça peut représenter jusqu'à 15% des budgets des familles les plus pauvres en France, alors que normalement, il est reconnu pour les pays occidentaux que ça ne devrait pas dépasser 2 à 3%. On est très loin derrière. Donc, on a toutes ces préoccupations de se dire que tout ça, c'est assez global et qu'on ne peut pas intervenir qu'au niveau international. Donc, nos autres actions localement, on intervient aussi par le biais de formation. Alors, c'est une action sur le local un peu différemment, mais dans le local a souvent bénéficié, parce que quand on accueille des formations, soit de gens qui viennent de l'international, on a accueilli des groupes algériens avec le CEDER, qui est plus orienté vers l'énergie, mais c'est les mêmes personnes au départ qui étaient au départ, ou bulgares, ou enfin bon, plus sur le principe de transfert de compétences, mais aussi de faire découvrir des nouvelles technologies, comme de faire venir des spécialistes de la pédoépuration et de la gestion des eaux usées, parce que nous, notre conception de l'assainissement va plus loin que les toilettes, hein, ça touche forcément. Ou ce stage de formation a pu avoir lieu que dans ce secteur, avec des gens suffisamment sensibilisés pour que toutes les conditions soient réunies. Justement, on est réunis en pôle de l'éco-assainissement avec un certain nombre d'autres partenaires qui se sont intéressés sur le secteur aussi. Ça a fait un petit peu tache d'huile. Et voilà, on est 5 ou 6 entreprises, petites entreprises ou associations regroupées dans ce pôle, ce qui permet un petit peu ces formations. On fait aussi des études, souvent financées par l'ADEME ou par le ministère de l'Environnement. Je pense par exemple à une étude sur les eaux ménagères qu'on vient de faire l'année dernière, ou les lieux d'observation. C'est parce que des gens ont pu, par cette sensibilisation, avoir des systèmes d'assainissement écologique. Ça nous a permis de faire les prélèvements pour correspondants. Enfin, on s'est partagé avec une autre association du Sud-Ouest pour avoir des climats aussi différents ou des conditions pédologiques différentes.
Et par exemple, mais cette étude-là, c'était avec des personnes que vous aviez déjà rencontrées avant ?
C'est les ingénieurs de l'association. Les prélèvements ont été faits par un service civique, ce qui est une autre manière de faire vivre aussi le pays, c'est qu'on prend des services civiques. Mais tous les prélèvements, parce que pour faire une étude scientifiquement tenable, il fallait faire des prélèvements, ont pu être faits parce qu'il y avait suffisamment de lieux ressources significatifs, de gens équipés en assainissement écologique pour qu'on puisse faire des prélèvements dans des bonnes conditions.
C'est un peu l'aboutissement de votre travail de sensibilisation depuis quelques années, finalement on peut mener une étude ici parce qu'il y a suffisamment de personnes.
Voilà, parce que ça fait quand même 30 ans qu'on travaille sur ces problèmes-là dans le secteur. Quoi. Donc voilà, de même, pareil pour les stages, ça permettait d'avoir un... On a fait plusieurs fois des stages de sensibilisation sur l'éco-assainissement ici parce qu'il y avait suffisamment de gens qui avaient installé des toilettes sèches des différentes filières, puisqu'il y a quand même... Les gens croient tous que c'est la cabane au fond du jardin de ma grand-mère, mais il y a quand même beaucoup de types de toilettes sèches différentes. Je faisais une intervention auprès d'architectes récemment qui découvraient et qui trouvaient ça... Mais on peut montrer justement différentes réalisations de différentes sortes, à séparation des urines ou pas, etc. On a aussi créé, malheureusement un peu plus loin à Valence, une plateforme comme ça avec différents types d'installations qui s'adressait plus. On a fait beaucoup aussi de formation et d'accompagnement d'acteurs de la solidarité internationale. C'est un autre de nos modes d'action vis-à-vis de ces problèmes à l'international, c'est-à-dire toutes ces associations ou de migrants qui essayent d'aider dans leur village à continuer à faire des réalisations, ou des villages qui parrainent des villages à l'étranger, comme que ce soit Madagascar, l'Afrique ou ailleurs, etc. Ben on a voulu rapprocher une plateforme de démonstration d'un plus grand centre pour que ce soit plus accessible près de Valence. Et en fait, depuis 2 ans, elle ne sert pas parce qu'il n'y a pas la même vitalité que quand on faisait les stages ici, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment du potentiel dans la région qui s'est un petit peu perdu parce que beaucoup de gens, nos projets à l'international étant disproportionnés, les gens ne nous vivent souvent que comme un peu à l'international, mais qui nous paraissent une source de... En tout cas, de liens, d'échanges entre le local et nos préoccupations qui sont peut-être plus mondiales, plus planétaires, ouais. mais c'est ambitieux. Ouais. Mais il faut quand même partir de concret au niveau de petits territoires, et c'est le cas de ce territoire.
Ouais, bah on voit que c'est important pour vous d'avoir cette place, cet ancrage avec le local. Est-ce que pour vous, au groupe URD aussi?
Alors, d'abord, le fait qu'on soit dans les baronnies, c'est d'abord un coup de cœur, hein, un coup de cœur de plusieurs personnes. Je pense que d'abord, Claire Pirotte, j'en ai déjà parlé, et puis ensuite François Grunewald, et puis ensuite moi, et puis ensuite une équipe. Aujourd'hui, on est une vingtaine. On est une vingtaine de personnes qui sont venues s'installer, qui sont salariées et qui habitent entre Buis-les-Baronnies, Vaison, Propiac, Beauvoisin. Et en fait, nous, notre ancrage ici, il est d'abord parce que c'est le lieu, c'est là qu'on a été accueillis, c'est là qu'on a posé nos bagages et les racines ont pris pour nous et plein d'autres familles qui, du coup, nous ont rejoints. Et donc, ça continue, hein, je dirais, 20 ans plus tard, 20, 25 ans plus tard, c'est encore un coup de cœur et encore des rencontres tout le temps. Et les gens qui nous rejoignent pour venir travailler au groupe URD, en général, viennent de loin, mais très souvent, ils s'installent et ils fondent leur famille ici et ils restent. Et voilà, on a beaucoup, beaucoup d'histoires de gens qui se sont installés depuis des années. Donc, c'est d'abord ça, pour être très clair. Et ensuite, on a aussi envie, du coup, de ne pas être un électron libre qui n'aurait rien à dire à cette région. Donc, on essaye de partager des choses. Par exemple, on a régulièrement des interventions au collège de Buis-les-Baronnies. Et même si ce n'est pas central de nos activités, on pense que c'est essentiel. Je veux dire, la solidarité, pas internationale, la solidarité tout court, pour le monde de demain, elle est essentielle. Et c'est une valeur. Et même si ce n'est pas monnayable, ou c'est essentiel que les générations d'aujourd'hui comprennent, connaissent, sentent et envie de mettre de la valeur dans la solidarité. On ne peut pas vivre sur cette petite planète si on n'est pas solidaire, ça c'est clair. Donc on essaye à notre toute petite échelle, dans quelques interventions au collège chaque année, humblement, de rappeler ça pour que les générations qui passent, et avec d'autres, hein, il y a Amnesty qui intervient, il y a plein d'autres organisations, et c'est grâce au collège et au directeur du collège que ça se fait. Donc ça, c'est des petites activités. On fait des choses avec le cinéma de Buis-les-Baronnies ou avec Amnesty International. Dernièrement, j'ai une collègue qui a fait une étude sur l'accueil des migrants en France, qui devient une vraie question humanitaire, que moi je traite depuis plus de 20 ans, parce que j'étais sur les terrains en Bosnie et en Afrique dans les années 90, et je me retrouve aujourd'hui à me dire, mais mon Dieu, on traite moins bien les migrants sur notre territoire que ce que j'ai vu et ce que j'ai moi mis en œuvre dans plein de pays, au Congo ou ailleurs. Donc pour nous, c'est important aussi d'être observateur de ces réalités-là et de pouvoir les restituer aussi ici. Donc dernièrement, c'était avec Amnesty International qu'on a organisé une soirée débat à Buis-les-Baronnies où il y avait 60-70 personnes qui sont venues pour preuve que c'est des sujets qui concernent la société civile et que c'est important, voilà, de pouvoir en parler. Et après, voilà, au niveau plus local, pareil, nous aussi on a des formations régulièrement qui se font dans notre centre. Là, on a un centre d'accueil du coup au-dessus de Plaisian, et on est très content d'accueillir des gens dans les baronnies qui se retirent un peu, alors soit la tourmente des situations de crise dans lesquelles ils interviennent, soit même des gens qui viennent de Paris se recueillir. Nous, on a 3 jours d'atelier bientôt avec des gens du ministère des Affaires étrangères, de l'Agence française de développement, qui viennent pour 3 jours se ressourcer et réfléchir à leurs modalités d'intervention, prendre du recul par rapport à leur quotidien institutionnel pour réfléchir avec nous. Et nous, on anime cette réflexion et on est très heureux que ça se fasse dans ce lieu et dans cette région magnifique, quoi.
Et quand on regarde un peu le rôle des ONG dans les médias et dans la vie publique, c'est souvent un rôle d'expert que les ONG endossent. Et est-ce que vous vous sentez dans ce rôle-là au niveau local ? Est-ce que vous avez l'impression d'être les experts qui travaillent ailleurs et qui ont quelque chose à dire ici ?
On regroupe des gens qui ont une certaine compétence et on se sent... On est plutôt dans le... On trouve ça normal de redispatcher ses connaissances.
C'est pas une critique de se considérer comme un expert. Enfin, tu vois, se considérer peut-être pas, mais au moins avoir une technicité dans un niveau local, c'est pas du tout négatif, à mon avis.
Non, c'est pas négatif. Je voulais juste rajouter une petite vignette parce que je pense qu'elle est bien en rapport avec ce qu'on parle ici. C'est que les personnes, et Pierre Colombo, pour ne pas le citer, qui a fait quand même beaucoup de recherches et qui a élaboré un petit peu tout ça, pour ce qui est en tout cas des toilettes, il a fait beaucoup le tour de tous les endroits du monde où il y avait déjà des toilettes durables. Et comme je citais, on parlait avec Bardia de Bopti au Mali, le Yémen, il y a plein d'endroits, et d'ailleurs c'est une de ses idées de pouvoir retransmettre toutes ces connaissances qui sinon vont se perdre, un peu comme on constate à la fois en France, une perte des savoir-faire des artisans ou des choses de ce genre. Et faut pas oublier, l'échange il est là en permanence, on en bénéficie ici dans ce secteur, mais on a aussi été glané partout dans le monde, et je crois qu'on pourra plus voir les choses à l'échelle que d'un local donné, quoi. Voilà, bon, c'est juste une petite vignette comme ça. Quoi. Mais je pense qu'on se sort, même si on a eu la possibilité de glaner des différentes connaissances, compétences, etc., c'est aussi de notre responsabilité de solidarité au niveau mondial de les retourner aux personnes qui en ont besoin. Quoi. Enfin.
Super. Et ben voilà, on arrive au terme de notre première émission Radio Buvette. Merci beaucoup d'avoir participé, d'être venu, d'avoir bravé la pluie et les éléments pour nous rejoindre dans notre petit camion. Et on vous souhaite plein de belles activités, plein de belles interventions.
Vous aussi, des belles émissions pour cette saison.
Merci beaucoup.
Ensemble, ici, Radio Live, la radio des initiatives.